Restez avec nous sur Europe 1. Éric Woerth, vous êtes toujours en ligne, évidemment. Vous m'entendez bien, vous me recevez bien. Député Les Républicains de l'Oise, président de la Commission des Finances de l'Assemblée et co-rapporteur de la mission Covid-19. J'insiste sur ce dernier point puisque je suis taclé par un de nos auditeurs qui se moque un peu de moi. J'entends Mathieu Béliard répéter en boucle, c'est Christophe qui nous écrit, que vous êtes rapporteur de la mission Covid-19 du Parlement. Mais aujourd'hui, on a quand même le sentiment que le gouvernement dicte et que les députés signent en bas de la page. À quoi sert l'Assemblée nationale dans l'état d'urgence sanitaire?
C'est une question?
C'est une question de Christophe, oui, il y avait un point d'interrogation.
D'accord.
À la fin.
Enfin, honnêtement, dans des crises, la parole est d'abord au gouvernement. Dans une crise, on gouverne, on agit, on réfléchit un peu, mais enfin, on est surtout en situation d'action et de vitesse de réaction à la crise. Donc évidemment, on le voit bien d'ailleurs dans les médias, le gouvernement à la première place. Les syndicats, les corps intermédiaires, tout cela est passé en second plan. Il reste le Parlement. Le Parlement, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de l'expression, c'est le lieu de la démocratie. S'il n'y a plus de Parlement, alors il n'y a plus de démocratie. Un Parlement, il doit avoir une attitude responsable. Et nous avons, nous les Républicains, on a une attitude extrêmement responsable. On met en cause un certain nombre de mesures. On dénonce un certain nombre de ratés dans la gestion de cette affaire. On reconnaît que c'est évidemment difficile. Mais évidemment, un texte, il vient devant le Parlement. Dieu merci, c'est la garantie de nos libertés publiques. Nous avons le droit d'amendement. On peut faire améliorer les choses, améliorer la position du gouvernement. C'est tout ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on signe pas en bas de la page sans rien dire. On l'a pas fait sur les budgets. Pas du tout. On a fait des propositions très importantes. Par exemple, que les allègements de charges se transforment en annulation des charges fiscales et des charges sociales. Bon, bref, un Parlement, c'est là où la démocratie continue à vivre, quelle que soit la tempête.
Sébastien nous demande, est-ce qu'on ne se précipite pas un peu trop? Le Conseil scientifique préconisait un déconfinement plus tard, en particulier pour les écoles. Vous et beaucoup de députés appelez à voter plus tard aussi. Pourquoi est-ce qu'on veut aller si vite?
Parce qu'il y a une urgence sanitaire, mais enfin il y a surtout une urgence maintenant économique. Si on va pas vite, moi je crois pas que la France doive affronter une vague massive de chômage, et je suis sûr que personne ne le pense. Vous pouvez avoir 300, 400, 500 000 chômeurs, 1 million de chômeurs supplémentaires. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour tous ces jeunes qui vont entrer sur le marché du travail et qui vont trouver porte close? Donc il y a évidemment urgence à essayer de trouver un bon équilibre entre une sortie sanitaire protégée pour les Français et en même temps une reprise du travail. C'est cet équilibre-là, et c'est sur la qualité de cet équilibre-là que nous attendons le Premier ministre cet après-midi.
Et justement, alors, j'ajoute, on a basculé, on cherchait le point d'équilibre justement entre l'urgence sanitaire et l'urgence économique. Aujourd'hui, je ne sais que vous n'allez pas me dire que la crise sanitaire est complètement derrière nous, mais aujourd'hui l'urgence sanitaire est un peu derrière nous par rapport à l'urgence économique.
Ben en tout cas, elle réduit, l'intensité se réduit, si j'en crois les chiffres qu'on nous donne tous les jours, et c'est tant mieux, mais elle n'a pas disparu du tout. Tout le monde redoute ce fameux rebond en priant le ciel pour qu'il n'arrive pas. Donc il faut le faire de façon prudente, évidemment. C'est pas embrassez-vous Folleville comme ça dès le lendemain et dès le 11 mai. Tout le monde a bien compris que c'était progressif. Mais cette progressivité, elle doit inciter aussi les Français à aller travailler. Le mot de dire restez chez vous, il y a un moment donné il faudra juste un peu changer quand même un tout petit peu le slogan. Et pour éviter cela, bah il faut résoudre cette incroyable question, cette saga des masques et des matériels de protection, des tests, de la stratégie de dépistage. Enfin, tout ça doit être clairement maintenant mis sur la table, alors que ce sont des valses hésitations depuis maintenant plus d'un mois. Et ça, le Premier ministre, il doit aussi répondre à cela. Tout à l'heure, il doit dire où seront les masques, à quel moment, dans quelles conditions et quelle est la stratégie de portage, notamment dans les transports publics. Les gens n'iront pas travailler s'ils ne se sentent pas en sécurité dans les transports publics. Ça me semble évident et du bon sens, compliqué sans doute, mais le gouvernement est là pour faire des choses compliquées et le Parlement est là pour donner son opinion et voter.
Evelyne nous écrit, on entend beaucoup dire, et c'est vrai que nous-mêmes l'avons peut-être un peu répété facilement, qu'il y aura un avant et un après. Evelyne trouve ça un peu fumeux. Est-ce que vous y croyez? Ou est-ce que l'objectif, c'est absolument de retourner à la normale?
Bon, heureusement qu'il y aura un après, hein. Heureusement qu'on va revivre, on pourra en sortir, voir ses amis et travailler. Et bon, mais La question, c'est la qualité de l'après. Comment ça se passera? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Il me semble naturel qu'on puisse y penser, et heureusement. Mais il faut tirer les conséquences de cette crise et les enseignements de cette crise. Les tirer sur le plan politique, les tirer sur les grandes lignes de nos priorités politiques. Vous voyez, il y a des débats. Souveraineté, est-ce qu'on doit être plus souverain sur un certain nombre de sujets, notamment des sujets industriels, des sujets de santé? Comment lutter contre le réchauffement climatique? Autre facteur de crise fondamental. Est-ce qu'on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique en enfermant les nations? On ne peut pas confiner les gens et enfermer les nations après dans de pseudo-souverainetés. Tous ces sujets-là, c'est des sujets mondiaux, c'est des sujets européens, c'est des sujets nationaux. Évidemment, le monde doit progresser. Une crise doit être utile, hein, autant qu'elle soit utile. Est-ce que ce sera le cas ou pas? Est-ce que l'avenir prendra comme avant avec les mêmes errements et parfois les mêmes erreurs? J'espère pas, mais ce sera à nous d'être à la hauteur. La question d'urgence, c'est quand même d'en sortir d'abord.
Éric Woerth, vous restez bien sur Europe 1, on revient dans quelques secondes. Je vois les questions de Juliette et de Pierre-Emerick en particulier qui s'intéressent aux propositions des Républicains. Vous allez y répondre dans quelques toutes petites secondes, en direct sur Europe 1, bien sûr.
La matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
Avec Éric Woerth qui est en direct avec nous sur Europe 1, député de l'Oise, président LR de la commission des finances à l'Assemblée, et qui répond à vos questions en direct sur le hashtag Radio Ouverte en particulier. Éric Woerth, je voyais Juliette nous écrire chez les Républicains. Vous souhaitez revenir à un rythme de 37 heures de travail hebdomadaire après la crise sanitaire. Est-ce que vous n'êtes pas en train de profiter de cette crise pour faire avancer des mesures idéologiques?
Non, nous on profite de rien du tout. On essaie juste d'être efficace. Je pense que tout le monde a envie de vivre dans une France efficace, qui fasse peut-être mieux face à des crises comme celle-là et qui permette à l'ensemble des familles de vivre avec plus de revenus et moins de risques de chômage et plus de bonheur au fond. Et qu'on ne loupe pas les transitions notamment écologiques qui sont devant nous. Maintenant, oui, il faut sans doute travailler plus. Moi, je ne sais pas s'il faut revenir à 37 heures. Tout ce que je sais, c'est que il faut travailler plus. Quand vous prenez le volume d'heures de travail produites par l'ensemble des Français et que vous le divisez par le nombre de Français, c'est au fond la mer, un calcul assez simple, on est parmi les derniers de la classe. D'autres pays travaillent beaucoup plus. Mais c'est pas uniquement le temps hebdomadaire de travail. C'est l'entrée dans le marché du travail qui est trop tardive, c'est la sortie, c'est le problème des retraites, c'est la sortie du travail qui est trop tôt. C'est évidemment le fait que notre pays soit un des rares encore à vivre avec un chômage de masse. Alors ça, c'était avant la crise, hein. On verra ce que devient les autres pays. Mais donc, c'est au fond produire plus ensemble, être plus efficace dans la production. Après, le nombre d'heures de travail, ça doit être hebdomadairement, ça doit être évidemment au niveau des entreprises, des branches, que les choses doivent être arrêtées.
Et j'étais en direct à 7h40 avec Philippe Brassac, qui est directeur général du Crédit Agricole, et qui nous disait la priorité, c'est d'être prêt pour le moment de la reprise. Il ne faudra pas être en retard à ce moment-là dans la compétition internationale.
Oui, mais on est déjà en retard. Les autres pays travaillent plus. Les Allemands, ils doivent travailler. Leur industrie doit tourner aux alentours de 80%. Les Pays-Bas, ça doit être 70%. Enfin, l'Italie, ça doit être au-dessus de 70%. Nous, on est à moins de 60%.
Mais donc là, vous êtes aujourd'hui pessimiste sur la reprise ?
Non, je suis pas au jour d'aujourd'hui pessimiste. Je pense que il faut arrêter de perdre du temps par des ordres et des contre-ordres. On n'a pas interdit aux Français d'aller travailler. On n'a pas fermé des entreprises dans les mesures de protection sanitaire. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé dans la réalité. Pourquoi ? Parce que les transports, évidemment, ne peuvent pas fonctionner normalement et qu'il y a eu beaucoup de il y a eu des ratés. Le président de la République, d'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Donc le moment n'est pas venu. Le moment n'est pas aujourd'hui au vote sanction, me semble-t-il. Il n'est pas du tout à cela. Il est juste à prendre, à tirer les conséquences de ce qui a été fait et à donner des instructions extrêmement claires sur les modalités de reprise économique. C'est là-dessus, mais c'est là-dessus qu'on attend le président de la République aujourd'hui. Comment les écoles, et le Premier ministre, comment les écoles vont réouvrir réellement, comment concrètement ça va se passer et comment les uns et les autres pourront retrouver, pourront retourner au travail dans des conditions de sécurité évidemment fortes, mais pourront retrouver ce point. C'est pour ça que je disais que le slogan « Restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous », à un moment donné, il est anxiogène. Il faut alors, trouver les moyens de ce déconfinement.
Alors justement, si on sort de chez nous, justement, Pierre-Emerick vous demandez la réouverture des restaurants rapidement, mais s'il faut se priver d'une table sur deux, on ne tiendra pas. Ça ne sert pas forcément d'ouvrir si on ne peut pas accueillir les clients. Ce n'est pas une question, mais c'est une remarque que vous fait Pierre-Emerick.
Il a sans doute raison. Vous savez, les restaurants, on en connaît tous beaucoup. Ils sont très très différents et physiquement, évidemment, les conditions d'accueil sont très très différentes d'un restaurant à un restaurant. Mais tout ce qui compte, c'est des mouvements d'ouverture. Il faut pas que ces mouvements se traduisent le lendemain par un mouvement de fermeture. Donc, il faut pas favoriser un rebond de l'épidémie. Personne ne peut le souhaiter. En effet, la France a fait beaucoup d'efforts. Il faut pas évidemment gommer ces efforts. Progressivement, il faut que les cafés, les restaurants commencent à réouvrir dans des conditions acceptables.
Dès la mi-mai,
nous avons proposé que ce soit dans notamment des zones qui ont été peu touchées par le virus dans un premier temps. Mais la clé, c'est quand même les transports publics. Hein. La clé, elle est là. Si tout le monde va travailler la peur au ventre, parce que les transports publics, je parle des grandes villes, dans les campagnes, c'est un peu différent, ne sont pas sécurisés, que les choses ne soient pas clairement dites, alors là, évidemment, personne n'ira travailler.
Merci Eric Woerth, merci d'être resté sur Europe 1 pour répondre aux questions de nos auditeurs. Ils étaient nombreux sur le hashtag Radio Ouverte. Eric Woerth, député de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée, co-rapporteur de la mission Covid-19. Merci beaucoup, il est 8h43. Europe 1.